Ouellet.
Life is short.
En direct.
Léon.
Wow.
Ouellet. En direct.
En vacances.
Radio X.
Ça sorte parce que fallait que ça sorte de ce studio-là, là, l'espèce de Jordan là, qui prend le mid, puis toutes les autres shows, le retour. Vous allez le réentendre un peu plus tard, c'est François Guerrier. Puis qui s'installe, midi une. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que l'été s'est fait pour jouer, puis que vous avez du temps pour jouer un peu. Max, as-tu joué un peu aujourd'hui dans ta journée d'été?
Je suis allé jouer avec moi-même à la maison, c'est-à-dire j'ai fait une coupe de push-up.
Ah ouais, tu fais des push-ups?
Ouais, aujourd'hui ça me tentait. Je peux pas dire que c'est coutume.
C'est-tu dans le cadre d'une remise en forme ou c'est dans le cadre de « ma blonde me tape ses nerfs »
Non, pas du tout ça, mais c'est momentané, hein, ça, okay. Des fois. Tu dis « Hey, je fais le moyen aujourd'hui, je vais faire des push-ups, ça va me mettre en forme. »
Ça m'est jamais arrivé.
Quel mensonge. Quoi?
Non, mais je veux dire, de me dire que la solution à mon problème, c'est de faire des push-ups. Là, je vais faire un tour de bike, aller vers la tournée des disquaires, m'ouvrir une bière ou autre chose, tu sais, mais pas des push-ups.
Moi, c'est souvent des push-ups.
Okay,
tu vois, quand ça va mal, je me crinque, là, un petit 22, des fois, je fais deux séries. Quand ça va vraiment mal.
Mais ça, t'as-tu appris ça en Arsinville, en cellule, avec les autres? Ou t'as
ouais, avec petit poêle, petit pète.
Petit banane.
Exact. Non, mais ça te recrinque un homme.
Ça
une,
doit.
Une couple de séries de push-up, tu te relèves, tu te regardes dans le miroir, tu te fais des accroires, ça te remet à masculinité à bonne place.
Accroires, genre, j'ai pas mes lunettes, fait que je suis grandi.
Ouais, si je me vois pas, hein, fait que ça, j'ai de l'air musclé.
En tout cas, on est bien content d'être avec vous jusqu'à 15h, en fait, puis toute la semaine comme ça, on est jouxtés, Max et moi. Si vous avez des choses à dire, ben c'est toujours au même numéro, c'est au 418-670-9098. Moi, j'ai fait la ligne ouverte hier pour la première fois.
Comment ça a été?
Avec Mathieu Dugal 2, pas celui de Radio-Can, là, celui
nouveau,
de Radio X.
Celui qui ne fait pas de quiz pour enfants.
Je sais pas.
Mathieu Dugal fait ça, des quiz pour enfants à Radcan.
Ah, je peux, c'est dans, ouais, la, ouais, c'est ouais, dans la matrice. Là, c'est...
Aujourd'hui, la balle rebondissante, pour ou contre?
Non, mais c'est genre, comment la balle rebondit?
Ouais.
Là, t'as un spécialiste de la physique quantique qui t'explique le rebond. Là.
C'est bon.
Mais je l'aime bien, là. Mathieu, à nouveau, là, il fait un job. Je pense qu'il va être, c'est une bonne recrue.
Ouais, ben hâte de voir ça, j'anime avec samedi matin, fait que
moi
t'as le fouetter un peu.
Bon.
On va voir ce que ça donne.
Tu sais, je suis dans une espèce de... j'ai souvent des obsessions, puis t'auras compris le personnage au fil des semaines qu'on passe ensemble, que des fois c'est les Hot Wheels, des fois c'est les vinyles. Là, je suis dans une pause de puck d'hockey.
Encore?
J'allais m'acheter une autre puck d'hockey hier.
Hey, man!
Il y a un monsieur à Beauport.
Mon étrange dépendance.
Qui vendait la plus belle puck que j'avais jamais vue de ma vie.
Okay.
Tu t'as montré?
Oui, celle-là, elle a l'air quand même belle parce que.
C'est une poque de Guy Lafleur.
Et dans un petit carré en plexiglas. Fait que déjà là.
C'est un petit case que t'achètes à l'imaginaire à 2$.
Es-tu signé?
Ben non, mais c'est une poque de Guy Lafleur dans le temps des Nordiques. C'est une genre de réédition de 2014 avec des graphiques super savants. Là. Ça m'a tellement rempli de joie de posséder cette poque-là. Je l'ai mis dans un case, comme tu peux voir. Tu peux l'ouvrir d'ailleurs là, pour y accéder.
Jamais
là.
J'oserais.
Je l'ai bien torché avant de la mettre dedans. Puis ça m'a juste rendu heureux. Puis je la traîne. Je travaillais avec tantôt, je l'ai mis en avant de moi. Là, aujourd'hui, durant l'émission, je vais la mettre en avant de moi.
T'es le genre de gars-là, hein? T'amènes des cossins chez vous, t'es mis en avant de toi pour passer une agréable journée. Écoute, cool, la POC, par contre, parce que collaboration entre Couche-Tard et la Fondation des petits trésors.
Ouais, c'est ça. Mais en fait,
c'est un drôle de mix.
Là. Ben, Guy Lafleur est en avance sur son temps. Il était préoccupé par la santé mentale de nos enfants.
Wow! Ça, c'est très en avance sur son
temps. Très en avance sur son temps. Donc, lui, il voyait peut-être la détresse dans le regard de petits garçons, de petites filles. Lui qui a eu une vie merveilleuse. Puis, il s'était dit, pourquoi on ferait pas des POCs, là? Une POC avec les Remparts, une POC avec les Nordiques, une POC avec les Rangers, puis une POC avec le Canadien. Puis, on va vendre ça là, au couche-tard. Puis, on va financer ça, là, des bonnes œuvres. Il y avait le cœur sur la main.
C'est un nice. Donc, deux questions qui sont pour moi les principales. Un...
Numéro 10.
Oui, ça, okay, vous savez, on était en même
temps. 4 dans le temps des Remparts.
Combien tu l'as payé, ce POC-là?
Presque 10$.
OK, pour une seule POC.
Ben là, j'ai amalgamé, comme on dit. Fait que moi, j'avais un 20 et j'avais pas de change. T'sais. Fait que j'ai dit, me semble que je serais prêt là, à dépenser un peu plus que le fameux 10$ que je m'étais budgété. Et voyant le stock que la personne en fait sur Marketplace avait en stock, son nom c'est François.
C'est là que je voulais aller. C'était ma deuxième question.
Ah ouais, okay.
C'est
ben
un vendeur
Gifort,
obsessif
là.
Ou?
Je ne dirais pas son adresse, là, mais je vais
il
aller.
Il reste
dans...
à Gifort?
Ben dans Beauport, secteur Gifort.
OK, quel wing? Ben, je suis allé moi aussi. Non, là. Non.
après chez eux, là, dans l'appartement. Là. Il est arrivé d'un rendez-vous chez le médecin, puis j'étais bien content parce qu'il m'avait dit, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Puis là, j'avais dit, OK, mais là, c'est un grand rendez-vous. Il dit, c'est un gros rendez-vous. Puis là, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, ça a bien été.
Bon, mais tant mieux.
Je te salue, François, merci pour la POC. Puis voyant que j'avais pas de change, puis tu sais, je n'en avais pas dû demander un 10, j'ai dit, pour 20$, je vais prendre la POC des Whalers aussi. De Hartford, mais Whalers qui ont gagné la Coupe Stanley cette année. Je les aime bien, les Whalers. Puis après ça, il y avait une POC des Nordiques un peu.
Amochée.
Mais surtout une réédition vintage, pseudo-vintage des années 2000. Fait que tu sais, elle n'a pas grande valeur, mais je ne l'avais pas.
Okay.
J'ai dit,
ben oui,
fait que là, j'ai dit 20$ pour les trois. Il dit, ouais, OK, là, je vais te donner une bonne note sur Facebook. Ça, c'est l'argument final. Hein. Je vais te donner une bonne note.
C'est malade. Mais fais-tu ça souvent, acheter du stock sur Marketplace?
Est-ce que tous les jours?
À tous les jours?
Ben, je veux dire, je magasine à tous les jours.
Ah, ah ta blonde pense quoi de ça?
Ben, dans ce temps-là, on se chicane pas. Je veux dire, je fais d'autres choses. D'habitude, le lave-vaisselle est vidé puis les poubelles sont sorties. Ah, je fais pas ça pendant que le bébé braille. Je fais attention.
Quand je suis pas en maison, on se chicane pas. Meilleur des deux mondes.
Non, mais Max, moi, ça me rend heureux, OK? Tu sais, je mets 10-20$. Toi, je sais que dans 10-20$, tu mettais ça soit dans une machine ou dans ton nez, là, à une certaine époque. Mais moi, personnellement, là. Comment?
V'là vraiment longtemps.
5-6 mois. Mais moi, personnellement, j'en retire un immense plaisir. Puis plus l'item est signifiant et sans valeur, on dit plus que je prends mon pied.
Mais c'est fascinant. Quand je suis allé chez vous et tu m'as montré ta collection de disques, là, ce qui m'a le plus frappé...
On a juste passé genre une heure.
Ah, et puis écoute, on aurait pu passer 6 jours là-dedans, dans cette caverne-là. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand tu me sortais des repro japonaises ou coréennes.
Ah, des pressings japonais?
D'Iron Maiden ou de Motorhead, man. Des espèces d'affaires. Là, où c'est que t'as pogné ça? Ça vaut 400$. Je fais comme, quoi?
Ils valent pas tous 400, non, là, mais des fois, j'aime ça flasher un disque qui vaut plus cher. Là. Mais effectivement, les pressings japonais ont la réputation d'être les plus agréables à l'oreille. L'épaisseur du disque, le sillon qui est plus profond.
Quand ton gars va grandir, vas-tu lui permettre de jouer avec ces POC-là?
Tout. Il est chez eux, là. Il fait ce qu'il veut, là, mais c'est sûr qu'on ne déballera pas des Hot Wheels pour rien. Quand Juliette était petite, à un moment donné, on avait fait un party chez nous, puis elle était avec des petits Bégins. Ça, c'était les voisins. Il y était trois petits tannants, les trois Bégins. Ils faisaient des annonces de calinettes dans le temps. C'était malade. Puis là, on fait l'anniversaire.
Avant ou après le chien Max?
Ben, c'est eux autres dans le chien Max.
Ben non!
Ben oui.
Hein?
Oui, oui.
Fait que le chien Max, c'était à eux autres dans la publicité?
Non, c'est
ben, il faisait partie de la famille.
Pfff, voyons.
Ben, pas me dire que je vois le chien, là.
Non, mais t'es bien naïf, là, je veux dire.
Je sais que c'était pas une vraie famille.
Non, c'était pas une vraie famille.
Je te parle dans la pub, le chien leur appartenait.
Pas du tout. Ben, je veux dire, c'est un chien acteur. Ça pour dire que Dominique, à un moment donné...
Il n'a pas compris ma question.
Non, OK.
C'était une fausse famille fictive, puis il jouait des enfants qui avaient le chien dans le pub. Il jouait la famille.
OK, il n'y avait pas de chien, les Bégins.
OK.
C'est un chien engagé.
OK, bon, tout est dit.
Fait que je fais un anniversaire chez nous, puis dans le temps, j'avais une genre de room Star Wars. T'sais, là, je ne l'ai plus, là, mais j'avais ma room Star Wars. Là, on avait une pièce qui était petite pièce. Là, moi, je vois comme ma fille n'est pas là, puis tu sais, je vois le petit tannant Bégin, là, Dominique, le plus tannant des trois. Puis, là, je fais son haut, ces deux-là, tu sais, puis genre 7-8 ans, là, tu sais, le pire. Je monte en haut.
En train de laver des tapis.
En train de déballer des bottoms Star Wars.
Que toi, tu voulais garder absolument
non,
emballé.
Là, c'est ça, ce que vous faites. On déballe. Je dis, non, mais qu'est-ce que tu fais, man? Là, il a déballé mon Jabba de Hutt paqué, là, tu sais, je l'ai encore, mais je l'ai plus dans le packing. Mais, puis Juliette, elle s'en rappelle encore. Elle me dit souvent, tu sais, papa, cette fois-là, j'ai été influencé ou je ne sais trop. Là. Elle s'en souvient parce que c'est rare que je pogne les nerfs dans la vie.
Puis aujourd'hui, mettons, dans l'état qui est. Pas désemballé, comme un pivot. 100 piastres?
Ouais, ouais.
OK, c'est quand même pas super.
Mais c'est ça, il y aura tous les droits. Là, en fait, c'est surtout, comment dire, l'héritier, hein, mon fils, de même que ma fille. Là, mais ils ont tous les droits, ils ont déjà tous les droits. Et puis,
Mais c'est sûr qu'à un moment donné, t'es conscient que ça va arriver. Le loup va atteindre une 13-14. Tu vas te demander, il est où? Il va avoir passé dans le sous-sol. 2-3 petits disques vendus. Va aller s'acheter un 3.5.
Ben voyons,
c'est sûr, ça va arriver. Là.
3.5 de jujube?
Ça va arriver un jour, oui.
3.5 de réglisse?
Oui, de fabuleuses réglisses noires quand même.
Je pense pas que ça va arriver. Là. Jusqu'à maintenant, c'est un petit être parfait qui m'a pas déçu. Ça fait que je vois pas pourquoi il me ferait de la peine plus tard. Non, mais en fait, il y aurait accès à toute la disco.
Ils sont devenus quoi, les Bégins, qui faisaient des pubs de Canada?
Y en a un qui est devenu avocat.
Ah, ça a bien viré.
Qui finalement est devenu professeur et il enseigne à l'école à Château-Richer, d'ailleurs, à l'école primaire. Dominique, je ne le sais pas, c'était le plus talent, mais je pense que c'est le plus performant. Puis Antoine, dans le milieu, ben lui, il était déjà été employé chez les Sorbessi, je l'avais déjà engagé, mais maintenant, il joue au Monopoly, il flippe des maisons, puis je pense qu'il se promène avec une grosse voiture. Là.
Ah ouais.
Ah ouais.
Et c'était?
Je pense que Gary Radotte. Hey, j'ai un solide Gary Radotte tantôt.
OK, j'ai hâte d'entendre ça.
Fait que garde ton thème pas loin. Donald Trump.
Hey, ça va bien. Hein?
Tu trouves?
Pas tant, non.
Ben, tu sais, je suis pas un spécialiste de la fiscalité là, américaine puis des échanges commerciaux entre le Canada puis les États-Unis, mais je suis un peu déçu. Tu sais, je faisais partie de ceux qui avaient quand même un certain espoir que Donald Trump fasse mieux, en fait, que son prédécesseur. Je suis pas très, là, dans... Moi, le grab de Poussy m'avait aussi un peu déçu, mais tu sais, je l'avais pas pris perso parce que c'était pas mon Poussy, puis je veux dire, il y avait quand même une distance. Mais là, il s'attaque à mon Canada, là, tu sais, mon Canada, le même Canada que Pascal Bérubé, là, c'est notre même. Puis là, mais je trouve hier qu'il y a un peu exagéré, exagéré étant un terme poli. En fait, on additionne 50 % de droits de douane sur certains produits. Ça a été annoncé hier en fin de journée. J'ouvre mon journal de Québec.com. Puis là, il y a un texte de genre un quart de feuillet, là, genre 250 mots. Puis on n'avait pas beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, on comprend davantage là, ce qui devrait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est que ça va nous coûter plus cher.
Ben, si jamais c'est instauré, là, c'est instauré à partir de...
Merci d'amener le conditionnel dans la conversation.
Ouais, à partir du moment où les 30 jours s'écoulent, si jamais il les maintient, ça va être instauré sur une panoplie de produits qui font d'ailleurs partie de la CEUM. Donc, on est dans une zone grise, mais j'ai pas l'impression que ça va être instauré plus qu'on risque de recommencer la valse des tarifs comme on l'a connu au début de son mandat. Parce qu'on arrive à... l'aube des midterms. Dans 2-3 mois, en novembre, début novembre, c'est les midterms. Puis, il y a de grands risques que Trump perde la Chambre, perde le Sénat. Donc, il va devenir un lame duck. Il ne pourra plus faire avancer son agenda. Et s'il ne règle pas les dossiers qu'il veut régler, principalement la gestion de l'offre, on dirait que tout ça est un cheval de bataille pour aller chercher la gestion de l'offre. S'il ne réussit pas à avoir ce qu'il veut d'ici à là, probablement qu'on va avoir beaucoup de tarifs qui vont être instaurés, mais ça va nous faire mal. 50 %, premièrement, il est-tu concurrentiel au 25? Est-ce qu'on va tomber à 75?
Il y a plein de questions. Beaucoup de nuances. 10 plus 50 plus 10 encore de l'autre 10 d'avant. Exact. On a-tu 80 % d'augmentation sur... Tu sais, puis bon, on comprend là, que les États-Unis aussi protègent leur industrie, comme par exemple celle du sucre. T'sais, tu comprends que...
C'est hyper subventionné.
Et là, puis c'est super ciblé aussi. Tu sais, lui, il veut ramener une tarification là, sur des produits comme vin, boissons alcoolisées, panneaux de contreplaqué, duvet, miel, bulbes et de tulipes. Bulbes de tulipes, je savais même pas que c'est un enjeu.
Ben pour les fleuristes, peut-être.
Non, mais salutations à toutes les fleuristes. Là, de Drummondville, on te salue.
Ouais, c'est ça, exact.
Les huiles essentielles. Mm-hmm. J'en utilise pas beaucoup. Bâtonnets à crème glacée, ciment, produits laitiers, bâtons d'hockey. Je le prends perso. Là. On fait tellement des beaux bâtons d'hockey pour les joueurs de la Ligue nationale, je peux pas croire qu'ils vont être surtaxés. Quand vous viendrez jouer à Montréal, vous les pognerez et vous les ramènerez détaxés. Comme des cartons de smoke là, dans le temps, aux douanes. Ah, oh, ça, c'est détaxé. Je l'ai pris au duty free.
Ça s'appelle une bouteille. Un 41, pas de taxe.
Une cartoon de bâtons d'hockey. Des Co. C'est quoi dans les marques modernes? Moi, je suis pas bon.
Les Co? Les bâtons d'hockey, tu parles?
Ouais.
Sherwood, ça existe encore?
Sherwood?
Moi, c'est vieux.
J'ai un Sherwood de Guy Lafleur chez nous. Mettons qu'on dit Sherwood.
Oh, ouais, Sherwood. Moi, je veux bien que Sherwood.
Fait que c'est des nouveaux. Ça va être dans 30 jours. Il peut en arriver bien gros des choses en 30 jours. Puis, ce que je veux dire, en fait, c'est que. Il a un peu perdu l'effet de toge au début. Des tarifs, il n'arrêtait pas. Ouais. Là, on shakeait. Moi, j'arrivais en onde, je shakeais quasiment. Hey, JC, il y a encore des tarifs. Puis le JC capotait sa vie. Puis là, Pat, deux fois pire. Puis là, je disais, même à la pause, on était en tabarnane encore. Mm-hmm. Puis on pognait en titi. Là. Mais là, moi, t'avoue qu'autour de moi, hier, je parlais à des gens. Des gens qui ont fait, comment ça faire, là? Oui, le Québec est assurément la province la plus affectée par cette tarification-là ajoutée. Il y a des industries qui payent le prix en bosse, ça va mal.
L'acier, le bois, l'acier, ça frappe fort.
En tout, là, je veux dire, les meubles, les ponts, là, c'est tough. Là. C'est vraiment tough. Puis j'espère qu'on pourra un jour voir la lumière au bout du tunnel parce que présentement, il n'y en a pas de lumière au bout du tunnel. Là. On a un gros 50 qui s'ajoute. Mais gardons espoir. Je ne sais pas si c'est une façon de vous en donner de l'espoir, mais il y a quand même présentement, là, au moment où on se parle, pendant que vous écoutez La Vilaine Radio X à partir de Québec, Christine Fréchette qui est à Charlottetown pour le Conseil de la Fédération avec Martin, ton préféré. Tout le monde est réuni là, toute la GRC est là, tous les élus canadiens, provinciaux, en fait, des provinces canadiennes sont là pour trouver des solutions à différents problèmes, notamment l'annonce de hier sur la tarification. Et Mme Fréchette, du haut de ses 5 pieds 1, peut-être que c'est 5 pieds 2, là. Peut-être que c'est 5 pieds 1 aussi, a répondu, mais d'une façon beaucoup plus soft que M. Ford, l'Ontarien, qui a dit on va répondre dollar par dollar, tarif par tarif. Puis Tu sais, j'ai pas la cote, là, mais Doug Ford, il gueule quand il dit.
Ah, il est fâché noir.
Il est fâché noir.
On a des feux de forêt. Pourquoi il n'y a pas des avions comme on l'a fait quand ils ont eu des feux de forêt en Californie? Il a de la misère à respirer.
J'ai
peut-être très
Trump tantôt dans son siège. Là, il était avec le président libanais. Puis évidemment, on voulait juste parler du Canada. Tu sais, le Liban. Ouais. En dessous de la pile, le Liban aujourd'hui. Puis il disait, non, le Canada, là. Là c'est pas une très bonne imitation de Donald Trump, là, mais
on n'est pas bon dans les imitations, toi, puis moi.
Non, JC, vite, vite, là, on n'est plus capable. Mais il disait, franchement, tu sais, le Canada prend pas soin de ses forêts.
Ben, ah, man.
Ça, là. Puis tu sais, un peu plus, ça revenait sur le fentanyl qui n'existe pas, là, ici. Je veux dire, on est zéro dans le fentanyl.
Non, mais il se trouve des pognes pour pouvoir nous taxer puis nous donner des tarifs, là. L'endroit discriminatoire, l'alinéa discriminatoire dans le Tariff Act qui a sorti pour pouvoir imposer ces tarifs-là de 50%, c'est la première fois de l'histoire des États-Unis
qu'on
que c'est utilisé.
Qu'on utilise ce règlement-là.
Ce levier-là, c'est la première fois qu'on le prend, qu'on le lève, qu'on fait « OK, je pense qu'on peut l'utiliser. » Surtout sachant que la Cour suprême a invalidé tous les tarifs.
C'est ce que j'allais dire.
Lui, si on prend le temps de s'y pencher, je pense pas qu'il va passer l'épreuve de la Cour. Parce qu'il y a tellement de matière à interprétation. Qu'est-ce qu'on qualifie comme quelque chose de discriminatoire? Ça peut rapidement partir en couille en cours.
Je le répète, là, moi j'avais espoir. J'ai dit « Bon, Donald Trump, deuxième mandat, il va peut-être être un peu moins idiot dans sa façon de gérer. »
Idiot?
Ben, je veux dire, il avait été un peu décevant lors de son premier mandat. Là. Il avait...
Ben, ça dépend comment tu vois ça. Là.
Ben,
l'économie s'est améliorée. Le PIB avait augmenté, il avait créé de l'emploi. Tout comme l'année dernière, en 2026, au State, le PIB a augmenté. Il a rapatrié beaucoup d'investissements, ouais, surtout en AI. Ils sont en train de construire un centre de données.
Ouais, ça me
de
va,
500
là.
Milliards, ça crée de l'emploi,
t'sais,
ça revigore l'économie.
Obsédé par le Obamacare. Tu sais, du monde travaille au McDo puis au Subway, là, qu'il faut qu'ils payent quasiment pour accoucher leurs femmes.
Ouais.
Moi, à un moment donné, ça, je trouvais ça dégueulasse. Là. Ouais. Tu t'occupes, oui, les super riches, là, ça prend, il faut créer la richesse. Je ne suis pas QS, je suis pas contre la création de richesse, puis je suis pas contre les riches. Mais les pauvres aussi, il faut s'en occuper, tu sais, puis d'enlever Obamacare comme ça, puis de restreindre les soins, les soins des hôpitaux aux gens qui en ont moins.
Je pense qu'il y avait des largesses dans l'Obamacare. Tu sais, le New Deal que Roosevelt a fait direct après la Deuxième Guerre, c'est-à-dire on refait... Ou non, c'était plus dans les années 30, c'était avant la Première Guerre, où on a mis un filet social aux États-Unis. C'est resté idem jusqu'à temps qu'Obama s'en mêle. Mais je pense qu'il y a eu des médecins qui ont abusé de ce programme-là, qui s'en sont mis dans les poches.
Puis tu sais,
c'est ça qu'il essayait de réformer.
Je pense que Donald Trump avait l'intention de garder les États-Unis loin des guerres. Mm-hmm. Puis ça, c'est un message qui, à mon sens, était porteur. Tu sais, on se souvient d'Obama qui était plus guerrier qu'on l'aurait cru. Puis les Bush aussi, les Bush puis le Moyen-Orient, ils ont la gâchette facile. Puis là, Donald, il nous disait, moi, je suis un président pacifique. J'ai peut-être des défauts, mais je serai pacifique. Il n'y en aura pas d'invasion. Puis là, on se retrouve avec la multitude de conflits qui ont popé depuis son arrivée. Fait que c'est ça, je fais partie de ceux qui sont un peu pas mal déçus. Puis là, ben la surenchère...
Mais t'es déçu de quoi? De sa posture? De ce qui inflige au Canada?
Ce qui inflige au Canada, surtout que ça n'avait pas été collé avant. On était un peu pris de court. Puis,
qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, il disait en campagne, là. Il disait qu'il allait faire ça, qu'il allait mettre des tarifs. Hey, il s'est pifardé sur tous les balados en disant que si jamais il était élu, la politique tarifaire allait être mise en place. Puis il donnait des exemples des années 30 qui avaient été faits aux États-Unis.
Moi, j'ai un souvenir formidable de Ronald Reagan, un président républicain qui était très proche du Canada, qui était très proche de Mulroney. On a signé un accord de libre-échange avec le Mexique. Je pense que c'était un moment fort, un moment lumineux de l'histoire canado-américaine. Et là, on se retrouve avec des usines en Ontario qui sont fermées, des usines de chars, là, des nos frères ontariens là, qui perdent leur job. Là. Nous autres, on a du monde au Québec aussi, là, en Beauce, là, les fabricants de meubles qui ferment. Fait que je vais t'avouer que peut-être qu'il avait collé l'achat d'un point de vue tarifaire, mais on n'avait jamais, je pense, mesuré l'ampleur des dégâts que ça pourrait faire. Et là, ben, qui est au pouvoir présentement? Ben, c'est ta Christine.
Oh.
Et Christine a pris la parole aujourd'hui, puis je voulais te le faire entendre parce qu'on est à Charlottetown aujourd'hui. Tous les premiers ministres sont fédérés, en fait, sous l'égide de Mark Carney. Et soyez rassurés, Christine s'occupe de tout ça.
Ces menaces. Et on va prendre le temps d'analyser là, les décrets présidentiels avant de se prononcer plus en détail. Mais comme vous savez, moi, je vais travailler sans relâche pour protéger les entreprises, protéger les travailleurs, protéger l'économie du Québec. C'est essentiel. Et comme vous savez également, la gestion de l'offre, c'est quelque chose qui est non négociable. Ça va rester jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin de...
Ben, jusqu'à la fin des temps.
OK. Ah oui, hein, rien de moins, Chris. OK. Ben, elle dit rien, là, finalement.
Elle dit juste une chose. C'est que, en fait, la gestion de l'offre, c'est non négociable, comme disait Marie-Chantal Toupin.
Oui, à part ça, pour le reste, on va prendre le temps d'évaluer ça. On va le temps. Tu sais, je pense que cette posture-là, prendre le temps d'examiner la situation, prendre un pas de recul, mesurer tous les impacts qu'une annonce comme celle de Trump a faite, parler pour rien dire par la suite, c'est une posture que les Québécois vont adopter, je pense. Parce que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui n'est pas réactif, qui ne fait pas de la clip, mais qui a de l'air mesuré. Je pense que les Québécois aiment ça.
Mais moi, je suis peut-être pas un bon Québécois parce que j'ai bien aimé la réaction de M. Ford, contrairement à Mme Fréchette.
Qui... Ouais, mais t'es peut-être pas le portrait type du Québécois moyen, là, effectivement. Là.
Non.
Il y en a qui trouvent ça agressif. Là. Il y en a beaucoup qui trouvent ça agressif, ce que Doug Ford
fait.
Oui?
Ouais,
oui.
Bon. Est-ce que tu as le goût... La table tournante est à on. Oui, je la vois bien.
Oui.
L'ampli est à phono.
Même réchauffé.
Est-ce que tu peux me mettre la toune que tu veux d'Ozzy, quoique Mama's Coming Home, ça ferait?
OK, on va trouver ça.
Tu te rappelles-tu, Ozzy, un peu, la
ouais,
musique?
Ça me dit vraiment quelque chose. Il est décédé, lui. Hein?
Ah, mets la toune, puis tu vas voir, je vais t'amener dans un univers. Demain, ça va faire un an que Ozzy est mort.
Oh, déjà, hein?
Tu te souviens-tu, Max, quand tu m'avais appelé? J'étais en bicycle, j'étais sur le boulevard Champlain.
Ça fait déjà un an.
Téléphone sonne, c'est Max Lacasse. Max Lacasse, qu'est-ce que tu veux? Gary, Ozzy est mort. Je me souviens, j'étais où? Je peux même te dire à côté de quelle statue j'ai arrêté mon bicycle. Ils ont 30 en onde. Puis moi, j'avais rien, là. Je veux dire, j'ouvre mon téléphone, je m'en vais sur les sites de news, je check. Hey, Ozzy Osbourne est mort.
T'es tellement bon, en plus, man. Tu rentres comme ça à voler.
Non, mais moi, j'étais émotionné, là. J'étais dans l'émotion, j'étais ému, là.
Ça paraît que t'es un grand connaisseur, que tu le suivais depuis longtemps.
Ben là, bon, ça fait un an, on a pris du recul. Depuis ce temps-là, mon fils est né, puis j'ai mis son nom, Ozzy, dans son baptistère.
J'ai bien mal à ça.
Ça, pour dire que chacun son héros, hein. Il y en a que c'est John Lennon, moi, c'est plutôt Ozzy. Puis, mais juste pour dire que demain, ce sera la première Oz Day.
Donc, la commémoration de son décès?
De Ozzy, oui, okay. C'est le Oz Day.
Puis Oz Day, ça, c'est juste en Angleterre?
C'est juste en Angleterre pour l'instant, mais ça pourrait vraiment être à Québec aussi. Moi, en tout cas, je ne me dérange pas qu'on fête
c'est
aussi.
C'est un férié?
Mais ben, c'est pas un férié.
Non, mais c'est une journée de commémoration.
Mais c'est quand même marquant dans la ville de Birmingham. Là,
ah oui.
Birmingham, excuse-moi, Birmingham. Mmh.
Mmh. Ça brasse à Birmingham ces temps-ci.
Hein?
Ça brasse à Birmingham ces temps-ci.
Pourquoi?
Ben, on a des gros... gros problème de manifestation relativement à l'immigration.
Ah oui, oui, j'ai vu ça aussi passer. Ouais. Puis, ben, probablement qu'on avait besoin de d'apprécier la vie un peu. Fait qu'on a proposé, en fait, c'est Jack Osbourne, là, son fils devenu mince récemment, qui a, en fait, orchestré ça. C'est le Oz Day. Il y aura des festivités qui vont être tenues, en fait, dans le centre-ville. Il y aura des prestations musicales, il y aura des expositions, même qu'il y a un musée là, qui a dédié une salle à la carrière d'Ozzy Osbourne et de Black Sabbath. Il y aura des retransmissions de films sur les écrans géants en soirée avec un groupe hommage, là, sûrement. Là, genre, j'ai le goût de faire des jokes, là, mais un hommage à Black Sabbath. Là.
On voit où est-ce que tu t'en vas.
Et c'est ça, ça va être assurément une belle fête. Puis un peu partout sur Terre, comme ça, on va célébrer cette année sans Ozzy. Puis son fils disait, moi, c'est la première année sans mon père, parce que c'est quand même, tu sais, nous, c'est notre chanteur, mais lui, c'est son papa. Il dit, Ozzy, il n'aimait pas ça, la fête, les anniversaires, il n'aimait pas ça, son anniversaire. Ça, il haïssait ça. Il disait, moi, je me rapproche de la mort, là, pourquoi je fêterais ça?
Ah ouais, OK.
Tu sais, c'est quand même, tu sais, moi, les gâteaux de fête, je les souffre pas.
Nous, il fêtait à l'année, fait que...
Ouais,
avant d'arrêter, il fêtait pas mal tout le temps. Là.
Il fêtait pas mal tout le temps. Snowblind! C'était pas une toune sur le ski alpin, là.
Hey, c'est-tu vrai dans le film de Motley Crue, là, où est-ce qu'on le voit sniffer des fourmis? C'est-tu vrai, ça?
Oui, c'est vrai, ça.
C'est vraiment arrivé?
Oui, c'est vraiment arrivé.
Ah oui, hein?
C'est la tournée Shout at the Devil, en fait, en 84, là, l'album de Motley Crue. Sharon avait eu la mauvaise idée de proposer Motley Crue en première partie de Ozzy Osbourne en carrière solo. Mm-hmm. Et Ozzy avait comme... en fait, pour lui, ça a été comme un élan de jeunesse. Il est comme retourné dans la vingtaine, parce que Motley, dans le temps, Vince Neil, le Nikki Sixx and the Gang, ben, il était dans la vingtaine. Ça dormait pas bien, tu sais, dans ce temps-là. Et ben, il y avait des concours là, de pas game. Je sais pas si tu as déjà joué à ça, là, des pas game. Et oui, évidemment, là, il a sniffé des fourmis sur le bord d'une piscine, mais... elles étaient vivantes. Donc,
c'est malade, ça.
Ils ont recraché. Là. Mais il y a plusieurs légendes, en fait, en lien avec tout ça. Là. C'est... je pense pas que ça soit la pire. Si tu lis I Am Ozzy, je peux te l'amener, d'ailleurs.
Je l'ai jamais lu. Ben ouais, absolument.
J'ai lu The Family, Osbourne Family, mais I Am Ozzy, ça vaut la peine. Là. Il en est arrivé des choses à Ozzy. T'sais, c'est vrai, la chauve-souris qui l'a croqué.
Je savais ça.
C'est vrai aussi qu'il a dormi sur un terre-plein, puis les gens pensaient que c'était un sac de vidange. Puis à un moment donné, ils ont dit, il est où Oz? Puis là, ils ont dit, c'est quoi le sac de vidange là-bas? Puis c'était Oz qui dormait au soleil.
Ah, c'est une légende. On n'en aura pas deux comme ça.
J'espère que.
C'est arrivé une fois dans l'histoire musicale du rock. Je pense pas qu'on va réavoir ça. Autant que ça, c'était symptomatique aussi des années qu'ils ont amené à la gloire.
Ils ont inventé un style.
Exactement.
Horreur rock.
Puis aujourd'hui, les jeunes ne boivent plus. La drogue, c'est comme semi. À cette époque-là, c'était glorifié.
Ouais.
Il y avait quelque chose qui faisait de toi quelqu'un de plus grand que nature. Quand tu t'emparais de ces vices-là, ça menait ton art rester à un autre niveau. Excuse-moi.
Non, vas-y, au fond de ta pensée. C'est ça, c'est la musique d'horreur. En fait, on n'appelait pas ça le heavy metal dans le temps, mais c'est la première musique qu'on avait qui se disait épeurante. Puis en terminant, juste vous dire que on va le mentionner comme ça. Il y a un T-shirt, puis tu me connais. Hein? Et là, il est vendu worldwide.
Oh.
Il est en vente à partir de minuit. C'est un T-shirt exclusif pour le Oz ID. Et puis, c'est une photo du Prince des Ténèbres à l'avant avec Black Sabbath. Tous les membres sont là. C'est un super gilet. Là, t'sais. Je n'achèterais même deux. Un pour conserver, puis un pour porter. Puis à l'arrière, c'est tous les 52 spectacles qu'il a donnés à Birmingham. Donc, on fête les choses pas à peu près. Et puis, paix votre âme. Ozzy, êtes-vous en enfer ou au ciel? Je ne sais trop, mais vous restez encore bien présent dans nos cœurs et dans nos radios.
52 shows à Birmingham, juste là.
Ouais, solo plus Black Sabbath. Mais si, quand c'est comme les Respectables, ils ont joué souvent à Québec aussi.
Oh, il est allé à Saint-Émile. Hey. J'ai essayé de voir Respectables quand
les restes de table?
Jeune. Ouais, puis c'était pas si pire, honnêtement.
Très bon, les Respectables.
Très bon live, là. Ça sonne super bien. C'est juste que c'est pas tant le genre de musique que t'écoutes de ton propre chef dans ton char. Tu rentres dans ta décapotable, tu fais, il me semble que j'écouterais Homme 7-Up.
Ouais, en plus, c'est Yves Laramée, je pense, qui a écrit le texte.
Ben non.
Ouais, oui. Mais Yves Laramée.
Radio?
Ben oui. Yves Laramée aussi, il écrit Amalgame. Je suis qu'un amalgame. Oui, c'est lui, là.
On dirait que c'est un gag. C'est
l'homme 7-Up, c'est pas quelqu'un qui boit de la liqueur, là.
Non, j'avais compris.
C'est quelqu'un qui a un membre de 7 pouces et plus. Puis moi, tu sais, les respects, là, au début du Cachemire, c'était le groupe résident, tu sais. Puis il y avait même un bar hommage au. Ça s'appelait le Bulldog d'Amsterdam, c'est la rue Saint-Jean. Puis il était tout le temps en résidence, là. Puis après ça, le Cachemire a ouvert. Puis en l'an 2000, au Cachemire, c'était le band. Puis Pascal, le guitariste, sortait avec Caroline Néron. Caroline Néron était là quand on a pété le millénaire en 1990. Mais moi, tu sais, les respects, si t'aimes pas les Stones, c'est sûr que t'as pas la connexion.
Non, ça sonne bien, les respects. Là,
ça sonne mieux qu'on pense.
Début des années 2000, ça devait être gros à Québec.
Ben, avant qu'ils switch en français, c'était un groupe qui n'était pas Radio FM.
Ah, ils ont fait des tunes en anglais, tu vois, je savais même
pas. Oui, tous les premiers.
Je suis pas sûr dans ma culture.
Les premiers disques des respects, c'est juste en anglais. Là.
Dans un français cassé.
No Dogs, No Band, on a fait la même. J'ai même la première cassette de tout ça, mais ça reste quand même un groupe. C'est comme Twisted Sister pour New York.
Exact.
C'est un groupe qui.
Très connu dans les scènes locales à New York.
Faisait les bars.
Il a fallu qu'il y ait en Angleterre pour percer.
Exactement. T'as déjà fait voler ton bicycle?
Non. Ben, j'ai pas de bicycle. Ah oui! Oui. Je m'en à Montréal. J'habitais là pendant un certain temps. Puis à un moment donné, il m'a fait donner un bicycle par un de mes chums, une guinée. Vraiment une guinée.
Un crack bike, comme on dit?
Exactement.
C'était un bike à 20$, là?
Pour me déplacer du point A au point B avec un mal de cul.
Valait plus cher?
Oui, exactement.
Je connais ça.
Puis je l'ai encadenassé autour d'un poteau, puis je me lève le lendemain matin, puis là. Ça arrivait fréquemment à Montréal, m'a-t-il dit.
Penses-tu?
Ah ouais.
Tu sais, les bicycles qu'on mettait au vidange ici, moi, quand j'étais copropriétaire de l'Essor Bicycle en bas sur le versant nord, là, puis tu sais, c'est le même aussi là, chez Mathieu, c'est le même aussi chez Record, c'est le même dans tous les magasins. Là. Va au pédalier, là, puis ouvre le container, ça se peut que tu des bicycles.
Des bicycles d'invidence?
Ben non, mais je veux dire, à un moment donné, là, on en a tellement, là, c'est l'abondance. Dans l'axe Sainte-Foy, c'est le Ric Caprouge, là. Le monde, moi, j'ai déjà trouvé un Bianchi d'invidence.
OK, c'est quoi ça, un Bianchi?
Un Bianchi, c'est la plus ancienne marque de vélo au monde. Okay. La plupart des Bianchi ont la couleur céleste. Ils sont encore autour de France. Ça fait plus de 116 ans que ça existe.
Ah.
Et là, j'arrive à une lumière. C'est quoi ça? Par-dessus le tas de vidange, un Bianchi.
Avec les roues, juste la frame.
Tout.
T'aurais pu embarquer dessus.
Ben là, il manquait de l'air d'un pneu.
Okay.
Fait que là, soignez ça. Tu comprends que les gens jettent beaucoup des choux gras.
Ah ouais, moi, une affaire que j'aurais jamais pensé faire, c'est faire du dumpster diving en arrière d'un bike, d'un vélo shop. Ça, là, j'aurais jamais pensé faire ça.
Les gros objets, là, j'ai ramassé deux Norco dans un tas de vidange. Des Norco, là. Ben non, mais c'était des. Il y avait un dirt jumper, il y avait un bike pour faire des jumps. Ou de la pump track. Puis il y avait un bike de cross avec une Marzocchi, tu vas me dire un bac des années 90, mais ça fait un excellent bac
d'hiver. Ah oui, c'est ça que j'allais dire.
Fait que là, j'arrive, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'en ai en sorte. Des BC que j'en ai un peu.
Ouais.
Fait que je suis allé chez Vélo Basseville.
Mm-hmm.
Puis je suis allé leur porter ça, tout simplement. J'ai dit, peut-être que ça va faire l'affaire de quelqu'un. Puis si vous avez des BC là, en Haute-Ville, jetez-les pas. Ou du moins, si vous les jetez, faudrait qu'on les voit pour pouvoir les ramasser. Tout ça pour dire qu'un vélo qui vaut rien ici, qu'on met au vidange, qu'on trouve dans les dumpsters, comme tu dis.
Non, dumpster diving.
Dans les poubelles.
Dans les poubelles, aussi ouais. Appelées poubelles. Ben oui, le vidange.
Comme l'inventeur de la poubelle qui s'appelait poubelle. C'est vrai.
C'est sérieux?
Ben oui, Google. Mais tout ça pour dire que les vélos à Montréal, là, tu sais, les vélos à 20$, là, les crack bikes, là.
Ouais.
Mais tu sais, à Québec, il y en a partout. Là. Je veux dire, on jette nos choux gras. Un vélo qui vaut rien ici vaut 200$ à Montréal.
J'aurais jamais cru.
Tu sais, des BC en aluminium du Club Price, là, des Infinity, des affaires de même.
Ouais.
Tu sais, ça, c'est pas réparable. Ah oui, c'est à Montréal.
OK. Exproprie-le.
Ils vont mettre un nouveau pédalier. Ils vont mettre des nouvelles roues. Ils vont mettre une guidoline. Ils vont tout mettre. Je te dis, là, Montréal, c'est comme un esprit. Moi, je rentrais dans un bike shop, des fois, j'étais là, des vieux CCM tout rouillés, 120$. Je dis, voyons, êtes-vous fou?
Il y a une économie parallèle.
C'est ça. Fait qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de bike poche, de bike de.
Parce que le monde est broke.
Ben oui, mais
c'est pas
juste.
Pas tous des grands cyclistes non plus. Là.
C'est pas tous des grands cyclistes, mais mettons que tu es un grand cycliste, là. Ça te tente-tu d'aller parquer ton bike en carbone en avant de la tour de Radio-Canada?
Non.
C'est sûr que non.
Garanti, tu vas te le faire voler.
C'est ça. Ça fait que tu veux une cochonnerie à 25$, puis si elle est encore plus moins cher, en fait, c'est encore mieux. Tout ça pour dire qu'il y avait un papier ce matin signé par Clément Le Chat. Quel beau nom. J'imagine que Camille aurait aimé être nommée Clémente Le Chat. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une vague de vélo, de vol de vélo à Ottawa, puis ça a défrayé la manchette. Puis il y a une madame qui avait géolocalisé son bike électrique. Puis là les X un peu tardifs ou les boomers qui nous écoutent, ils ont des bikes électriques à 10 000. Là. Si vous avez mis une puce là, sur votre vélo pour le géolocaliser, une balise GPS, le vrai mot, là, mais sachez que même si vous êtes capable de le relocaliser, « Ah ben mon bike est chez tel vendeur de telle affaire, de tel commerce, dans tel sous-sol », tu peux pas aller le chercher. Puis la police ira pas plus le chercher pour toi.
Mettons que tu t'es fait voler ton bike, la personne va le porter dans un commerce.
Mettons mon bike est volé, puis là, il est chez Max Lacasse.
OK, mais chez nous, je suis pas un commerce. Là.
Non, non. Mettons, ouais. Mais toi, tu es un voleur de bicycle.
Ouais.
Tu t'appelles Max Lacasse,
ouais.
Le voleur de bicycle.
Et j'en vole en maudit des vélos.
Et là, moi, je me rends compte que je géolocalise ma monture, mon ouais. Nouveau vélo Gazelle. Et là, je me rends compte qu'il est chez vous.
Tu peux pas venir le chercher?
Ben, je peux pas.
Pourquoi?
Je peux vraiment pas. La police me dit, c'est pas une bonne idée d'aller le chercher. Puis pire que ça, la police ira pas.
OK,
Elle mène une enquête.
Okay.
Fait que là, la police d'Ottawa a dit « Non, tu peux pas aller chercher ton bike. » Elle a dit « Ouais, mais va donc le chercher, mon bike. » Non, mais on mène une enquête.
Fait que ce que tu dis, c'est que c'est comme semi-légal, là, voler des vélos.
Ben,
aucune conséquence.
Il n'y a pas vraiment de conséquences. Non. C'est assez bien...
Ouais, mais là, il t'empêche d'aller le chercher. Mais
la
moi,
madame
si
a dit
«
Hey, moi, c'est mon moyen de transport. Là, la grande, elle marche pas. Là, elle a pas de char. Là.
Ouais.
Elle a besoin de son bicycle.
Mm-hmm. »
Puis là, ben, elle est pognée parce que la police veut pas. Elle dit qu'elle mène l'enquête. Elle, la genre pèse 110 livres, là. Ça ne tente pas de cogner à la porte et que ça soit un gros monsieur qui a chicane. Il n'y a pas de bicycle ici. Il y a quand même une tension là, pour aller rechercher un bike. Mettons que, tu sais, le dédomiseur, là,
mm-hmm.
J'aimerais ça que ce soit lui à la place de, mettons, Tilou.
Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai qu'une femme de 70, 60, un peu chétif, ça peut mal tourner. Mais. Ça me fascine, moi, que la police va pas là. Surtout en Ontario, ils ont d'autres affaires à faire que ça, tu vas me dire, là. Mais ils devraient à tout le moins fournir une aide. Là. Si tu vas aller chercher par toi-même, fin, dépêcher un agent, tu le sais, il est là, tu as la preuve. C'est pas une suspicion. Il est dans l'appartement. Rendu là, s'il l'a pas volé ou se l'est fait donner, il pourra s'expliquer. Mais il faudrait au moins dépêcher un agent pour ces vieilles dames-là.
Sinon... La dame, elle s'appelle Florence Liane, puis elle est très déçue, en fait, là, de la réponse de la police de Gatineau, pour être plus précis, là. Qui, elle dit...
C'est pas en Ontario, ça?
Ouais, ben c'est pas Mathieu, c'était un coup de pédale.
OK. La police de Gatineau va même pas chercher les vélos volés?
Non.
Puis toi, tu peux pas y aller?
Non.
Bon, mais c'est free, man, de voler des vélos à Gatineau. Let's go! On se part une business.
Ça m'a rappelé une histoire, la première année que je suis arrivé ici. Il y avait une vague de vols de vélos à Québec. Puis, tu sais, à la gang, on sait tout, c'est André Arthur qui disait ça.
Exact.
Puis à la gang, on le savait, là, que c'était qui.
Vous l'aviez trouvé?
On l'avait trouvé.
Comment?
Dans le cadre de la chronique de Gary. Il y avait des gens qui avaient photographié le dit voleur. Il y avait des gens qui l'avaient filmé. Et il y avait des gens qui m'avaient même stoolé son adresse.
Il l'avait doxé.
Moi, j'ai pas doxé son adresse, mais le bout qui m'avait fait le plus rire, C'est une madame qui avait vu Toto. C'était ça son nom. Toto, le voleur de vélo. Elle avait vu Toto, qui venait de voler un vélo ou qui était sur un bike, usage, un bike volé, tu sais.
Toto.
Puis là, elle voit. C'est ce qu'elle y avait dit. « Hey, as-tu volé le vélo de mon fils? » Puis il avait dit oui.
Puis après?
« Ben, veux-tu que je te le ramène? » Tu me crois-tu?
C'est un gentleman voleur.
Je te le fais entendre.
Ben voyons.
« Hey, man! Tu m'as volé le bac de mon fils? T'es-tu au courant de ça? »«
Non, pas du tout. » »«
Oui, ben là, un, tu t'es reconnu par ton nom. »
« Ouais, mon nom, c'est Toto. » »«
Oui, mais ben, oui. »« Ouais, OK, mais ça fait quatre personnes qui me le disent. » Puis là, t'as volé le bike de mon fils, un BMX.
OK.
Est-ce qu'il y aurait moyen de le ravoir, ce BMX-là?
Oui, si tu l'as avec le poignet orange.
Oh my God, oui.
OK, good, je peux te le ravoir avec plaisir.
Je peux te le ravoir avec plaisir?
Non, mais le pire bout, c'est... Je sais pas si t'as entendu, là. Le BMX, t'as volé le BMX de mon fils. C'est-tu lui avec les poignets orange? Le gars, il connaît même son inventaire.
Toto le tata. Mais voyons, c'est qui ça?
C'est le voleur de Bézic de Charles Bournard.
Mais lui, il était dans une situation précaire. Là.
Ben sûrement que c'était pas le prochain maillot blanc du Tour de France.
On l'entend là, qu'il va pas souvent chez le dentiste.
Ah, c'est ça, t'es capable de te palper ça. Hein?
Oui, on dirait que dans le son, ça se sent.
T'imagines, la madame, elle sort son perron, la Limoilou, là. Elle sait que c'est Toto. Tout le monde, il dit c'est Toto. Lui, c'est Toto, le voleur de vélo.
Mais elle a des couilles, cette madame-là.
Elle filme. Hey, Toto. Elle dit pas hey, Toto, mais hey, c'est toi qui as volé le vélo de mon fils. Hein?
Celui qui les poignets orange.
Ouais, il va te le ramener avec plaisir.
Puis il a ramené finalement.
Oui.
C'est vraiment malade, ça. Puis là, lui, est-ce qu'il a arrêté de sévir dans les rues de Québec?
Bien, plusieurs semaines plus tard, dans les journaux, on a compris qu'il y avait eu une arrêt. C'est sûr que le gars s'appelle pas Toto Tremblay. Là,
ça aurait été malade, là. Ça aurait été complètement
malade. Je me souviens très bien, là, je lisais mon journal. Puis on m'a dit, saisi de, dans un appartement, genre de demi-sous-sol.
Saisi.
De...
La police est rentrée là.
Ben non, mais il y avait plein de bikes.
On sait si l'inventeur de Toto mène le voleur de vélo.
Ben oui, mais tu sais, c'est un crime non violent.
Oui, mais c'est un crime chiant. C'est un crime. Tu sais, non violent, je comprends, mais toi, t'as des vélos, là. T'en as vendu. Il y en a qui valent 5-6 000.
J'en ai plus des vélos à ce prix-là. Là.
Non, t'en as plus à ce prix-là, mais je veux dire, t'en as vendu à ce prix-là.
Oui, ça, quand j'étais commerçant.
Une évidence, il y en a à 10 000, il y en a à 2 000. Il y a des vélos qui valent du cash. Là, si tu le laisses dehors pas attaché, c'est un peu ton problème. Mais si Toto lui arrive avec une paire de cutters, puis Toto, il sait comment ça marche, Toto va ramener le vélo.
Ouais, puis c'est ça pour dire que, tu sais, il y a une qualité dans les cadenas. Tantôt, tu parlais d'un cadenas qui valait plus cher que ton bicycle quand t'étais à Montréal. Là.
Ouais.
J'ai juste un mot à dire. Kryptonite New York Lock.
C'est ça le best.
Il n'y en a pas d'autre de bon. Il est petit, il est jaune, c'est kryptonite, comme la kryptonite de Superman.
Okay.
C'est une marque américaine. Ils ont inventé le cadenas en U. Ils l'ont perfectionné à un point tel que le New York Lock, c'est le seul qui peut être garanti sur l'île de Manhattan.
C'est bien nice.
Si ça marche à Manhattan, ça marche à Charlebourg.
Et ça marche à peu près partout au Québec. Je me souviens quand j'étais à Montréal, quand je me suis fait voler.
Cher, par exemple, ces cadenas-là.
Combien ça coûte?
Entre 100 et 200.
Ça va être un cadenas du Canadian Tire, finalement.
Ben, c'est ça, un cadenas du Canadian Tire que je suis capable de couper avec un coupon. Là.
Ouais, mais tu sais, un cadenas New York Lock, là, tu mets pas ça sur un vélo que t'as payé 50$. Là, ou sur un vélo que t'as payé 150, je veux
ça
dire.
Ça peut, ça dépend de ton attachement.
Ça, effectivement, ça,
et
c'est
si
un bon
demain
point.
Demain matin, là, tu te fais voler ton bike puis t'es en retard à la job, ton cadenas, t'es content, Titi.
Puis il faut bien que tu le barres. Je te comptais en début, là, quand je me suis fait voler mon vélo, moi, à Montréal.
Juste barrer à roue avant. Épais.
Ouais. Comme un épée.
Épée, man.
Ah ouais. Move the rookie, man.
Tu sais, moi, j'irais pas jusqu'à dire ce que mes mécanos disaient à l'époque, mais tu l'as mérité de te le faire voler.
Je connaissais rien là-dedans, moi.
C'est un peu.
D'arriver
avec
là.
Avec une déclenche rapide?
Ben oui. Mais je te jure. Je me suis levé le lendemain matin, puis j'ai tout computé ça. J'ai fait le retardé mental. Fait que j'ai pris l'autobus.
Merci, le RTC, de ramener Max à la job.
Ça
moi, j'ai perdu ma cerise dans le Maine.
Ah!
J'ai perdu ma virginité dans le Maine, à Saco, avec Christine Taylor. J'ai essayé de la retrouver pendant des années sur Facebook. Aux États-Unis, il doit y avoir 200 000 Christine Taylor, OK?
Ouais.
Tout ça pour dire que, moi, mon seul séjour dans le Maine m'a profondément changé.
Ouais, marqué, j'imagine, ouais.
En fait, je m'asseyais, c'est plus juste en dessous, là. Ouais. C'est genre gros French, puis tout, là, la première fois que je fais des affaires que je savais pas que ça existait, là.
Parce que la cerise, c'est elle qui t'a fait l'amour ou...
Non, mais on s'est comme fait l'amour sans faire l'amour, là. Tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, là. J'étais quand même en secondaire 1, là.
Y a pas de problème.
Mais je m'en souviens en titi de cette journée-là. J'étais à Saco, tout juste à côté de Hall Orchard, puis je suis jamais retourné dans le Maine. Je suis pas un maniaque. Mais je sais qu'il y a plein de gens, de Québécois, qui capotent sur l'idée d'aller dans le Maine, d'aller à Old Orchard, d'aller à Saco, d'aller à Kennebunk, de vraiment à Gwynquit. Il y a plein d'affaires à faire, là. Manger du homard, faire du camping, se reposer, se baigner.
Se baigner est frette, dépendamment du moment de l'année.
C'est
mais...
un peu comme la Gaspésie. Là, contrairement à moi, toi, t'as pas de gras. C'est sûr que t'es plus sensible.
Ben, effectivement, quand tu rentres, la cerise, elle rentre.
C'est ça pour dire que j'espère que j'ai attiré votre attention. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est un papier qui est paru aujourd'hui dans le journal sous la plume de Audrey Ruel-Monceau. C'est concernant le fait qu'il y a de moins en moins de Québécois qui adoptent le Maine comme destination vacances. Mm-hmm. Et cette année, il y a un petit retour, quand même, il faut le mentionner. Ça a l'air qu'à Old Orchard, là, où est-ce qu'on peut manger de la barbe à papa puis gagner des T-shirts de Def Leppard en jouant au dard sur des ballons. C'est pas là que ça se passe. Il y a vraiment les Québécois qui sont retournés aux États-Unis, qui sont retournés dans le Maine. En fait, on a la stat, là. En avril, c'était 1,4% de plus. Pas beaucoup de plus, là.
C'est pas beaucoup.
En mai, 9,5. En juin, 3%. C'est très timide. On retourne tranquillement. Oui, Donald Trump nous tombe sur les nerfs, là, mais c'est surtout le dollar canadien.
C'est le cash, là.
C'est 1,40$.
Oui, 41 aujourd'hui, là, présentement.
Ça gosse un peu, là. T'sais, ça veut dire qu'une nuit d'hôtel, c'est 200 US, là.
Oui, effectivement.
Ça veut dire qu'un camping, c'est rendu 60 US, là. Tu vas là 10 jours, c'est 600, là.
C'est très cher. Je suis allé au State, là, un mois et demi à peu près.
On a couché dans l'auto?
On a couché dans la rue. Comme des vrais New-Yorkais. Full experience. Bon, on achetait avec la carte de crédit. Puis je te garantis, quand on est revenu à Québec, on a vu le bill, on a fait le saut. Parce que c'est en US. Ben oui. Ça a l'air pas si pire. OK, le sandwich à 25. On a déjà mangé des sandwichs à 25 à Québec. T'arrives à Québec, pam, puis t'envoies le bill. OK, finalement, il était 40 de sandwich.
C'est ça.
Mauvaise décision.
Ben, louer une chaise de plage à 69 US, c'est un peu cher.
Oui.
Un stationnement à 20-30 US, c'est un peu cher.
C'est ça.
Puis, tu sais, bon, des guédilles qui reviennent à 32$ US au homard, OK, là, mais quand
c'est
même...
C'est le homard du Maine.
Ben oui, mais là, le homard de la Gaspésie est bon aussi, là, puis le homard, tu sais, tous les homards sont bons. Donc, il y a vraiment un timide retour au Maine. Et moi, je me souviens, on était monté, plutôt descendu dans le Maine à bord d'une Pontiac parisienne avec Guy Sanche. C'est-tu Guy Sanche? En fait, c'est le frère de Bobineau. C'est lui qui chauffait. Qu'est-ce qu'il y a?
On dirait que je suis dans un sketch, man.
Non, non, mais
on
c'est vrai.
On dirait que je suis dans un sketch. Je suis descendu dans le Maine avec Guy Sanche, en Pontiac parisien,
ouais.
Le frère de Bobineau.
Un coupé, oui, oui. Non, non, mais c'est, on se souvient, tu sais, je me souviens de mes souvenirs. Là, je veux dire, j'étais là.
Ouais, ça, c'était un bon seconde, point.
Ça a joué beaucoup, ça, sur... Ce voyage-là m'a modifié.
Pour quelle raison? Bobineau, il était...
Non, mais c'est le frère de Guy Sanche, là, c'est qui était mon voisin, puis on était partis comme ça à bord de sa voiture, puis...
Ouais.
C'est un bon chum de mon père. T'sais, il était scénographe. Là, il faisait des scénographies pour des pièces d'auteur de mon père.
Ah, c'est cool, ça.
Fait qu'on allait, on s'était loué un chalet à Saco, toutes les deux familles ensemble. Puis
c'est là que tu avais rencontré Mme Taylor ou c'est plus tard?
Exactement.
Ah oui, Mme Taylor. Elle ressemblait à quoi, Mme Taylor?
C'était dans un toga party.
C'est quoi ça, un toga party? Donc,
le seul règlement d'un toga party, c'est qu'il faut que tu t'habilles avec un drap et seulement qu'un drap.
Ça fait que t'étais dans une orgie.
Non, c'est un party de 12-15. Là, t'sais, avec,
t'habilles avec un drap?
Oui, mais c'est comme un peu les parties romaines.
Tu t'es fait en faire waver. Il n'y a personne qui fait ça.
Ben, c'était la mode dans mon temps. Là.
Dans ton
toga
temps?
Party, ben oui. Là. Étant donné qu'on n'a plus le droit là, de rien faire, là. On ne fume même plus dans les bars.
On se fait tout me-tweezer. C'est quoi cette affaire-là?
C'est tellement décevant, cette période-là.
OK, fait que c'était un party style romain. T'avais-tu une petite couronne de trèfle en or?
Je suis pas César. Là.
OK, OK.
J'étais comme un simple romain, là. En gougoune. On avait droit au gougoune. Puis on dansait, là, genre, sur du Culture Club, du Wham, puis Brunsky Beat, là. C'était les années 80, man. T'étais pas là, tu peux pas comprendre.
OK. Mais alors, ça venait à quoi, Taylor? T'as pas répondu à ma question. Elle avait un drap, si on le comprend.
Ouais.
Puis, mettons, c'était-tu une brunette? C'était-tu une blonde? C'était-tu une rousse? C'était une
brune avec une coiffure. Je me souviens de ses tresses françaises.
Oh, hein, ça marque des tresses françaises.
Des tresses françaises.
Quand elle a un drap, puis elle a des tresses françaises, habituellement, c'est gagnant.
Ah oui. Je m'en souviens beaucoup. Puis, fait que c'est ça, je l'ai jamais retrouvé. J'imagine qu'elle a encore liste de moi. Mais moi, je l'ai cherché.
C'est sûr.
Au début de Facebook, c'est la première affaire que j'ai faite. Je la retrouve, c'est sûr. Là, j'arrive sur Facebook, tu sais, puis là, tu sais, des Taylor. C'est pas de notre famille.
Mm-hmm.
Chris, tu sais, ça peut être Christina, Christine, Chris, si. Ça peut être vraiment beaucoup d'affaires ou même. Peu importe.
T'avais-tu envoyé une couple de messages?
Non, là.
Non, parce que ça, c'est le message de la honte, là, quand tu tombes pas sur la bonne. Is it you, Christine?
Who the fuck are you? J'ai encore des petits sujets. En as-tu du temps? 44, parce que tantôt, on va parler quand même des bons invités aujourd'hui.
Festibiaire, oui.
Ça marche-tu? Je sais que ça fait un peu...
Oui, Festibiaire, ça marche.
Ça marche, OK. C'est à quelle heure?
Sarah Lapointe-Gagné va être ici vers 14h. L'entrevue est un peu après, là, dans ces
OK, jours-là. Parfait. Ben, d'ici là, on aura Jérôme 50, l'auteur du dictionnaire des Schiller, et Éric Duhaime aussi, qui va être là en direct de Gatineau. Pour nous parler de politique.
Là où on peut voler des vélos en toute légalité.
D'après moi, Éric Duhaime, vol de vélo, c'est pas dans la même phrase. As-tu vu ça sur Riverside à Ottawa? Puis là, je suis raccord avec mon sujet, là, mais il y a quand même un gars qui s'est fait arrêter à 172 km/h.
C'est le frère de Toto?
Non, mais c'est le champion du jour. Là. Je veux juste te dire que c'est les vacances de la construction. Man, calme-toi le pompon.
192 dans une zone de combien?
60.
Ouh!
C'est quand même beaucoup, là.
Ah non, ça, c'est complètement c'est retardé.
Audacieux.
Il était-tu ça à la brosse?
56 ans, donc sûrement. Mais...
hey, bien rentre les jambes, vacances de la construction. Même, la construction. Là-bas, même en Ontario.
Un conducteur de 56 ans, c'est Benjamin Vachet qui nous écrit ça à partir de Radio-Canada, Ottawa. Un conducteur de 56 ans a été arrêté pour un excès de vitesse enregistré à 172 km/h en zone de 60 sur la promenade Riverside. T'es-tu déjà allé sur la promenade Riverside à Ottawa?
C'est-tu pas loin du Parlement?
C'est, ben oui.
Oui, oui, OK.
C'est pas
172 là?
C'est ça que je comprends pas. Comment tu fais pour parvenir à cette vitesse-là?
Ben oui, c'est tout petit.
C'est tout petit, c'est tout pétroit, c'est plein de bancs. C'est-à-dire, il y a des bicycles, des chaises roulantes, des berceuses, pas des berceuses, mais des poussettes.
Il est bien dangereux, ce gars-là.
Un peu, ouais. T'sais, le véhicule a été intercepté. Tu peux le comprendre, il n'a pas corroboré au début.
Il n'a pas collaboré.
Il n'a pas collaboré pendant tout. Fait que là, il est inculpé de manœuvre périlleuse, excès de vitesse, défaut de présenter son permis.
OK, ouais, mais il y a de quoi qui marche pas dans cette histoire-là. Là. Clairement, le gars était peut-être sous l'influence de quelques substances. Tu peux pas rouler 112 over dans une zone de 60.
172 km/h, c'est vraiment vite, là.
Dans une zone de 60?
J'ai passé presque une heure un matin pour... J'ai tout demandé. Reddit, IA, Instagram, X, Facebook, moi le sac, tout. C'est quoi le char? Je voulais savoir, c'est quoi le char? Tu veux dire, 172 km/h, c'est clairement pas une Renault 5.
Ben, clairement pas, parce que les vitres shake puis les portes tombent à cette vitesse-là.
Vraiment modifié, là, au pire. Puis je n'ai pas la réponse, mais j'étais quand même interpellé. Qu'est-ce qu'un monsieur de 56 ans qui roule à 172 km/h sur Riverside à Ottawa chauffe?
Est-ce qu'on a la notion si c'était de jour ou de nuit?
L'incident s'est produit dans la soirée du 18.
OK, dans la soirée. Donc, on n'est pas dans la nuit. On est soirée, c'est 7-8 heures là, dans mon livre.
C'est 5 à 7, on dirait. Là. C'est cette dangereuse période de la journée. Là,
ah, ouais, ouais.
Là où les effluves.
Quand le Long Island frappe 172 dans une zone de 60.
Le Long Island Iced Tea.
Quand faut-tu pisses. Là.
Mais j'en reviens pas. En fait, là, il risque une amende.
Ah, pour vrai?
Oui.
J'aurais jamais deviné.
Devine combien, par exemple?
Ah, ça doit être épouvantable. En Ontario, en plus,
ouais.
Ils doivent être plus maniaques que nous autres. Moi, je dis 1900.
2000 à 10 000.
Oh! 2000 à 10 000, donc ça va être déterminé en cours?
Oui, ben parce qu'il y a plusieurs chefs, là, comme je te disais. Manœuvre périlleuse, excès de vitesse, 172 dans une zone de 60, refus de présenter son permis de conduire. Là, il y a une suspension de permis supplémentaire de 1 à 3 ans qui va s'ajouter à ça. Puis il pourrait même avoir 6 mois de prison. Donc jusqu'à 10 000, jusqu'à 6 mois.
Ah oh, ouais, ça vaut ça, là.
Ça va être tough jusqu'à Noël, man.
C'est complètement... Oui, ça va être tough, certain. Puis c'est injustifiable, c'est pas explicable.
Ben, me dire 172, pourquoi? Là, va à Montmagny, il y a un ringside, là. Tu peux aller tourner en masse. Tu gagneras pas 172, là, parce que le circuit de Montmagny est un peu petit pour l'avoir déjà... Mais loue-toi une voiture, puis va à Tremblant, dans la grosse curve, là, juste avant de remonter, là, tu vas le pogner 172. Tu vas même pogner 209, c'est un vrai char.
On devrait-tu faire des espèces de compilations où les conducteurs dangereux sont compilés? Tu sais, comme les délinquants sexuels, là. On fait une espèce de fiche, puis les conducteurs dangereux qui ont fait des stupidités de même sont regroupés dans un fichier, puis on peut y avoir accès.
J'étais sûr que c'était un gars de 16 ans et quart. J'étais sûr que, tu sais, maximum 23 et demi, là.
Ouais, mais il y en a des jambons, là. Il n'y a pas d'âge pour être un jambon.
56 ans, man!
Ah oui.
Tu sais, un vrai X, là, tu sais, qui est pas supposé, là, supposé de t'occuper de ta famille, tes petits-enfants, ta mère, tu sais, t'es dans un âge dans la vie où est-ce que tu prends soin de tout le monde, là. Tu prends soin de tout le monde, t'es aux lumières, t'es là, le monde va vite, là, tu sais, t'es plus dans la... Je vais modifier mon Civic, m'aller plus vite que Tony, tu sais, puis Kevin.
Puis t'écoutes quoi dans le char quand tu roules 172 dans une zone de 50?
Hey, ça, c'est une bonne question.
Ouais, parce que ça prend de la muse, là. T'es pas à fret net sec.
D'après moi, Kickstart My Heart, c'est pas pire.
Crazy Train.
Ça prend une toune, là, de...
Ouais, ça marche, faut que ça soit beaté.
Kill by Death de Motorhead.
Ah ouais, c'est bon ça.
On se laisse-tu sur Kill by Dead de Motorhead?
Je pense que oui, man.
Ça pourrait être une bonne façon là, de partir à la pause. Kill by Dead de Motorhead, il faut que absolument que tu vois la vidéo. C'est le premier vidéo de Motorhead. Lemmy sur une moto, il y a une fille genre à moitié tout nue en arrière de lui. Mais avant d'avoir la fille à moitié tout nue sur sa moto, il rentre dans un appartement. Il y a un genre de British en camisole qui écoute sa télévision avec de la bière. Ramasse la fille de 19 en bobette, part avec une smoke dans la gueule, des speed plein la bouche.
La belle époque.
C'est mon Lemmy. On se quitte là-dessus. Kill by Death, tué par la mort. Ah, ça, c'est une belle petite tune d'été.
Direct.
Radio.